Hello, je suis Aurélie Gillard, ton hôte sur Tech Lipstick, le podcast des femmes qui conquièrent la tech. Tous les 15 jours, rejoins-moi pour une conversation avec des femmes inspirantes, qu'elles soient entrepreneurs, ingénieurs ou salariées dans une start-up tech. Nous échangeons sur leur parcours et sur les challenges que nous rencontrons tous dans le monde du travail d'aujourd'hui, et particulièrement en tant que femmes dans la tech. Nous en apprendrons plus aussi sur les différents secteurs de la tech, les opportunités et les challenges de cette industrie. Merci de ton soutien en t'abonnant à cette émission. Pour le dernier entretien de l'année, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme qui a déjà accompli beaucoup, non seulement dans le domaine de la technologie spatiale, dont elle est une experte reconnue, mais aussi en tant que fervente activiste de la cause des femmes et de la communauté LGBTQ. Cécile, bienvenue au micro de Tech Lipstick.
Merci beaucoup Aurélie pour l'accueil, ça fait plaisir d'être là et je suis contente de conclure l'année avec toi.
Eh ben moi aussi, tout le plaisir est pour moi. Bienvenue. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es en quelques mots avant qu'on rentre dans les détails de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui?
Moi, c'est Cécile Depré. J'ai 30 ans. Je suis belge d'origine. Je viens de Liège. Et j'ai déménagé il y a 4 ans à Munich, dans le sud de l'Allemagne, avec mes deux petits chats. Et je travaille là pour le Centre spatial allemand. Du coup, depuis 4 ans.
Vu tes prises de parole, tant dans ton domaine et pour les causes que tu défends, alors on a beaucoup à dire ensemble. Et je propose qu'on commence par parler de ton parcours. Il va falloir que tu m'aides un peu parce qu'en fait, tu as grandi en Belgique et moi, je connais pas bien le système belge. Donc, tu as fait un baccalauréat scientifique, c'est bien ça? Et
oui,
ensuite, tu as commencé par une licence de géographie. Jusque-là,
oui.
C'est bon.
Exactement, oui. En fait, quand j'étais ce qu'on appelle, nous, les secondaires, donc c'est on a 6 années de primaire, puis 6 années de secondaire, et puis on passe à l'université, si on fait l'université, bien entendu. Quand j'étais en secondaire et que je devais me décider pour savoir vers quelles études j'allais aller, j'étudiais à l'époque le latin, le grec et les maths fortes. Donc, j'étais un peu dispersée. J'aimais beaucoup tous les sujets, et j'étais intéressée notamment dans les domaines donc des maths et de l'ingénierie, mais j'ai entendu en fait que c'était surtout pour les hommes, pour les garçons, et il y avait cette blague très offensive d'ailleurs qui disait que les seules femmes qui faisaient ces études d'ingénieur, c'était des lesbiennes, et donc c'était pas des vraies femmes. Et ça m'a vraiment refroidi à l'idée d'aller dans ces études, ce qui fait que j'ai choisi d'étudier les sciences plutôt, parce que ma mère et ma belle-mère sont toutes les deux médecins, et donc je savais que les femmes dans les
D'accord.
sciences, il y en avait. Et donc, j'ai commencé par la géographie qui est en fait assez large. Ça me permettait d'étudier la physique, la biologie, un peu de tout en fait la première année. Et puis ensuite, ma sœur vient de se faire engager pour son nouveau boulot, je suis vraiment désolée.
On vit en direct le moment, c'est trop bien.
Ouais, je suis désolée, c'est une nouvelle personne du podcast.
Yes.
Mais... L'orientation, en fait, elle va aussi dans la tech. Elle était géologue et
D'accord.
elle change complètement d'orientation. Tu seras peut-être intéressée de l'avoir dans ton podcast un jour. Elle a un parcours très, très impressionnant. Mais donc, c'est son premier job dans la tech. En France, c'est vrai que je ne connais pas bien le système, nous on dit secondaire et primaire, mais vous, c'est du coup le collège, c'est ça, et puis le lycée.
Et puis, alors, il y a le collège, le lycée, et voilà. Et en fait, nous, on a le système aussi des classes préparatoires qui est un peu particulier.
Ouais.
Donc, tout le monde,
ne
va pas à la fac. Et notamment, voilà, et notamment pour les écoles d'ingénieurs, c'est vrai qu'il y a les classes préparatoires. Je suis surprise quand même par ce commentaire, tu vois, comme tu dis, offensant et surtout, j'aurais pensé que tu vois, la Belgique était peut-être différente que la France et que il y avait plus de femmes qui allaient vers des études scientifiques, et apparemment vous devez être du coup au même niveau que ce qu'on est à peu près, c'est-à-dire 20-25% de filles dans les écoles d'ingénieurs. C'est
ouais.
ça. Ouais. Donc c'est intéressant parce que moi, tu vois, ma perception des études de géographie, c'est qu'au contraire, c'est pas très scientifique, mais comme quoi on a des préjugés.
En Belgique, elles sont dans la faculté des sciences. Et dès la deuxième année, j'ai eu l'option de choisir des études de géomatique. C'est pas très connu, c'est beaucoup plus connu au Canada en fait. La géomatique, c'est un
D'accord.
mélange donc de géographie et d'informatique. C'est par exemple, si jamais on vous demande dans un grand magasin, dans une grande surface, votre carte cliente, en fait, on va vous demander votre localisation, votre adresse, et on va utiliser ça pour pouvoir savoir où on va mettre les prochains magasins, par exemple. Donc c'est l'intégration des données géographiques dans l'informatique. Via cette discipline, on a aussi forcément l'intégration des données satellitaires dans l'informatique et donc le traitement des données satellitaires. C'est comme ça que je suis arrivée à travailler sur les satellites.
C'est ce que j'allais te demander justement. Après, tu t'es spécialisée, tu as fait un master, c'est ça ?
En fait, donc, j'étais un peu hésitante à me lancer dans ces domaines. C'était un peu... c'était pas très accueillant pour les femmes de façon générale. Et quand j'ai eu cette opportunité de refaire des maths plus avancées, donc avec cette option en deuxième année de géomatique et poursuivre un master du coup dans cette dans cette spécialité, ça a vraiment été quelque chose qui m'a inspirée. On parlait déjà des satellites dès la deuxième année. Je me suis dit ça pourrait être chouette à faire. J'avais pas une grande passion dès le départ pour l'espace. J'ai jamais été quelqu'un qui... Je me suis jamais dit, oh, je voudrais partir dans l'espace, je vais être astronaute. C'est toujours pas le cas. Mais je suis intéressée par énormément de domaines, notamment dans la science. J'aime beaucoup le fait que ça évolue continuellement, le fait qu'il y ait toujours de nouvelles découvertes. Et donc, j'aime beaucoup travailler dans la science de façon générale. Et ce fait que, en ayant choisi cette option géomatique, j'ai pu choisir de faire une thèse de master dans le domaine du positionnement par satellite, qui est plus connu comme le GPS. Et j'ai travaillé alors plus particulièrement sur le développement européen. Donc il y a le système Galileo, qui est l'équivalent du GPS, mais pour l'Europe.
D'accord. Donc en fait, toi, tu ne te considères pas comme faisant partie du domaine spatial ?
Si, si. Maintenant, je travaille pour le centre spatial allemand quand même. Et tout ce que je fais, c'est dans le domaine spatial. Si, clairement, je travaille dans le domaine spatial.
D'accord, d'accord. Mais à la base, tu ne rêvais pas astronaute. Alors justement, la petite Cécile de 12 ans, elle rêvait à quoi ? C'était quoi ton rêve ?
Eh ben, j'avais, je pense, très peu d'idées de mon futur. J'ai pris beaucoup de temps avant de me décider. Et c'est mon papa travaillait à l'université. Et c'est un de ses collègues qui donnait cours de statistique qui lui a parlé de la géomatique en disant que c'était une option. Il y avait très peu d'étudiants et d'étudiantes et que c'était très intéressant pourtant. Et que si j'hésitais, c'était peut-être quelque chose à aller tester. Donc, j'avais vraiment pas beaucoup d'idées. Je vis assez fort au jour le jour. Je me laisse emporter.
Et t'étais, quand tu dis que t'étais attirée par les sciences, t'avais un ordinateur chez toi, parce que toi, t'es de la génération, t'as pas vraiment grandi avec Internet, en fait. Et ça arrivait, quoi, quand t'étais justement 13, 14 ans.
Oui, c'est ça. C'est arrivé à ce moment-là. Et alors, on utilisait plus Internet pour les jeux. Les jeux en ligne, c'est devenu quelque chose assez nouveau. Mais oui, j'ai pas commencé à faire de la programmation spécialement par moi-même. C'était plutôt dans mes centres d'intérêt en général. J'aimais bien les sciences, à l'école,
Mais tu jouais quand même, tu faisais des jeux.
Oui, oui. Mon frère et ma sœur jouaient aussi et il et elle m'ont attirée dans le gaming.
D'accord, ça marche. Un milieu aussi encore là pour le coup
très masculin.
Très sexiste, mais bon, c'est un autre débat. Donc, tu vas peut-être nous en dire plus sur ce que tu fais actuellement. Le centre spatial allemand, quel est son rôle ? Justement, nous expliquer quel est ton métier, en quoi ça consiste. Et puis, on parlera peut-être aussi des autres métiers qu'on peut exercer dans ton domaine.
Alors, moi, je travaille dans une équipe où on essaye de visualiser comment les nouvelles technologies qu'on développe dans beaucoup de domaines pourrait impacter positivement le positionnement par satellite des utilisateurs au sol. Donc, par exemple, toi avec ton téléphone, moi avec mon téléphone, quand on cherche à s'orienter dans la ville, y a une précision qui est de quelques mètres. Ça dépend si on est dans des grandes villes avec des hauts buildings. En fait, les signaux satellitaires vont être réfléchis. Ça va pas être un positionnement qui va être très bon. Et il y a moyen, en fait, les satellites ont une durée de vie de 12 à 15 ans pour le moment, ce qu'on utilise pour le positionnement. Et donc, la constellation européenne, l'ensemble des satellites qui forment Galileo, on est en train de les renouveler. Il y a une seconde génération qui est en train d'être créée avec des nouvelles technologies embarquées. Et nous, on travaille sur la prochaine génération de satellites. Et alors, on intègre des liens optiques. Donc, en fait, c'est des liens laser entre les satellites. Parce que jusqu'à présent... La plupart des satellites qu'on utilise pour le positionnement, donc ils sont entre 20 000 et 24 000 km d'altitude. Donc les avions volent à 10 km maximum d'altitude. Ici, on parle de 20 000 ou 24 000 km d'altitude. Donc c'est très, très élevé. C'est plus haut que les satellites, par exemple, de Starlink. Ça, je pense que tout le monde commence à connaître un peu ces satellites de communication qu'on appelle en orbite basse. C'est moins haut, par contre, que les satellites qui relaient Internet ou bien des gros satellites de télécommunication qui sont à 36 000 km d'altitude, donc encore plus haut. Donc, c'est une orbite moyenne, mais qui est quand même assez éloignée, forcément, de la Terre. Et donc on va avoir cette troisième génération de satellites, et ce qu'on aimerait bien pouvoir mettre en place, ce sont des communications entre ces satellites qui, jusqu'à présent, ne communiquent pas entre eux, communiquent uniquement avec des centres de référence sur Terre, qui leur envoient leur position et qui leur envoient toutes les informations. En fait, les satellites sont là, mais ils n'ont pas une connaissance eux-mêmes de leur position. Et donc l'idée ici, c'est de pouvoir utiliser ces liens laser pour mesurer la distance entre les satellites, leur permettre de communiquer entre eux, et en améliorant en fait le calcul de leur propre position, essayer d'améliorer le calcul de la position des utilisateurs et des utilisatrices au sol.
D'accord. Alors, c'est vrai que c'est un domaine, moi, qui m'est totalement étranger. Il y a quelque chose qui me vient comme ça, c'est le sujet, peut-être un petit peu polémique, du fait que l'espace devient hyper encombré, qu'il commence à y avoir plein de déchets. Je pense que c'est même un problème pour vous, puisqu'il y a des collusions, il y a forcément des satellites qui sont abîmés, non?
Oui. C'est quelque chose qui me tracasse beaucoup, et je trouve ça j'ai du mal à avoir de l'enthousiasme, par exemple, pour des projets d'exploration spatiale qui ressemblent beaucoup plus en fait à des projets de colonisation. Finalement, j'ai l'impression que notre société ne retient rien de son passé, du coup, colonisation de l'espace aussi, sans faire attention en fait à tous les dégâts. Ça a été le cas, je pense, quand on a commencé en fait à lancer tous ces satellites. Le ouais. GPS et le système russe dans les années 80-90, il n'y avait pas du tout cette conscientisation environnementale, même si évidemment il y avait déjà des chercheurs et des chercheuses qui tiraient la sonnette d'alarme. Maintenant, c'est le même problème que sur Terre, en fait. J'ai l'impression que ça passe quand même toujours en second plan. Et oui, je trouve ça assez inquiétant. C'est pour ça que j'aime aussi, je pense, avoir à côté de mon travail un activisme au niveau sociétal, parce que si j'aime beaucoup la technologie et la recherche, je suis aussi vraiment contente de pouvoir avoir un impact en fait sur la société à côté de mon travail, quelque chose que je vois directement, et j'espère qui permet de faire de notre planète un endroit plus agréable pour plus de personnes à vivre.
Et si on revient d'ailleurs à ce sujet de l'espace, est-ce que quand même, par exemple, on arrive à faire des satellites qui, je dis n'importe quoi, mais qui se décomposeraient ou qui seraient recyclables ou qui pourraient être ramenés sur Terre, ou ça va nécessairement se retrouver pour l'instant comme des déchets qui se baladent dans l'atmosphère, enfin pas dans l'atmosphère justement, dans l'espace?
Je pense que, enfin moi j'y travaille pas spécialement, mais je pense qu'il y a des équipes, je connais notamment quelqu'un qui travaillait chez Airbus sur ce sujet-là, donc ça c'est des sujets de réflexion maintenant, il y a différentes stratégies, je pense, qui sont mises en place. Je crois qu'avant, en fait, on envoyait plutôt les satellites sur une orbite qui partait juste très loin dans l'espace, on n'avait plus de traces de ces satellites, ils disparaissaient de l'air. Il y a aussi l'option de les faire traverser l'atmosphère, parce qu'avec la vitesse, évidemment, normalement, ils sont censés brûler, ça dépend de la composition, de la taille. En traversant l'atmosphère, il y a une combustion, mais je ne sais pas du tout quel est l'impact environnemental de cette combustion, qu'est-ce qu'on dégage, est-ce que ces gaz sont tous rejetés à l'extérieur de l'atmosphère ou pas. Je ne suis pas du tout une professionnelle du sujet, mais c'est quelque chose que je pense qui commence à attirer de plus en plus d'attention, enfin j'espère, et j'aimerais bien que dans les normes maintenant et dans les projets dans lesquels on nous demande d'intervenir, quand il y a des missions de test, par exemple des technologies qu'on veut utiliser, ce serait bien d'avoir systématiquement en fait une partie dans laquelle on est censé expliquer comment on compte gérer tous les aspects environnementaux. Mais c'est pas le cas pour le moment.
D'accord. Je voulais te demander les autres métiers qu'on peut exercer quand on travaille dans ton domaine. Est-ce que toi, tu as en tête d'autres métiers, d'autres disciplines? Là, plus pour une ouverture pour ceux et celles qui voudraient rejoindre ton domaine.
Donc, la plupart des gens qui travaillent avec moi sont des ingénieurs ou alors des physiciens et des physiciennes. Moi, j'ai un profil un peu à part. Je crois qu'il n'y a pas d'autres géomaticiennes dans mon institut. Il y a quelques personnes qui ont étudié aussi la géodésie, donc l'étude des formes de la Terre. J'entends aussi de plus en plus qu'il y a des personnes qui rejoignent, notamment des personnes qui ont étudié le droit, qui rejoignent ces questions dont on vient de discuter sur comment gérer l'espace, puisque maintenant il y a tous ces, tout, en fait il y a tous les des entreprises privées qui se mettent aussi à investir l'espace. Ça aussi vous en avez parlé la semaine passée, deux semaines, mais c'est aussi un gros changement en fait par rapport au fait qu'avant il y avait que les agences spatiales nationales ou internationales qui s'occupaient de ça. Et donc je pense que aussi au niveau des lois, et il y a beaucoup à faire justement à développer. Je pense aussi au centre spatial, par exemple, on a des médecins qui travaillent pour faire de la recherche sur l'impact que ça a d'être dans l'espace pendant 6 mois quand on travaille sur la station spatiale internationale. Ce genre de métier aussi, on les retrouve associés au secteur spatial.
Ça donne quand même pas mal de possibilités. Toi, tu te vois rester toute ta vie dans ce secteur-là ou il y a d'autres choses qui t'attirent ?
J'avoue que je vais bien voir. Je ne suis pas trop très cassée. J'avance un peu en fonction de ce qui me plaît, des opportunités que j'ai sur le moment. Là, j'aime bien ce que je fais. C'est intéressant. J'apprends beaucoup. Et tant que j'apprends, je reste, en fait. Le jour où je n'apprendrai plus, alors je serai contente de découvrir quelque chose d'autre.
J'espère que cette première partie te plaît. Reste avec nous, car dans la deuxième partie, nous parlerons beaucoup de sexisme, puisque Cécile est activiste dans ce domaine, mais aussi de son métier, de ses conseils et de ses références. Je dois juste signaler que suite à un souci technique à la fin de notre enregistrement, nous n'avons pas pu conclure, mais je t'assure que la bonne humeur était bien là.
J'ai travaillé pendant ces 4 années à l'Université de Liège, pendant mes études aussi. En fait, j'ai remarqué que donc je réussissais très bien à l'université et que mes collègues, qui étaient principalement des garçons, disais que la raison pour laquelle je réussissais si bien, c'est parce que j'étais une femme et que je portais des jupes à mes examens. Et comme la plupart des professeurs, forcément dans mon domaine, étaient des hommes, c'était évidemment la seule explication logique pour le fait que je réussissais très bien. Et au début, j'étais un peu, je me disais, mais non, c'est pas vrai. Et puis j'ai remarqué qu'en fait, chaque année, ça revenait et que c'était une façon finalement de justifier une sorte de jalousie. Et c'est là que ça commençait un peu tout doucement à se débloquer. Je me suis dit, mais c'est pas normal d'avoir ces commentaires. Puis ça a été des commentaires quand j'ai commencé à travailler à l'université par des anciens profs de l'université qui commentaient mes tenues, qui finalement, plutôt que de me rendre des commentaires sur mon travail, s'attardaient uniquement sur le fait que j'étais souriante et que quand j'arrivais dans le bureau, ça mettait vraiment une atmosphère sympathique. Mais c'est pas du tout ce que je faisais dans mon boulot, forcément. J'étais pas payée pour venir avec un sourire et pour mettre une bonne atmosphère. Mais j'ai commencé à réaliser, en fait, que tout ça, c'était pas des choses qui me mettaient en valeur, mais au contraire, c'était des choses qui me remettaient à une place qui était celle de la jeune femme un peu gentille, qui était jolie, agréable à regarder, mais qui finalement n'était pas vu comme quelqu'un qui allait apporter quoi que ce soit de valeur au niveau de la recherche dans mon institut, là où je travaillais à l'époque. Et puis quand je suis arrivée du coup au centre spatial allemand, le jour de mon interview, j'étais stressée forcément, c'est une interview, le centre spatial allemand c'est assez gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a une très grande réputation. Mes futurs collègues qui me voient là dans le local à café, un peu stressée, ils arrivent et ils se disent « Ah, mais il faut pas que tu te tracasses, Cécile ». De toute façon, ils vont t'engager parce que t'es une femme et il n'y en a pas de femme. Mais j'étais furieuse, en fait. Je me suis dit, mais donc ces personnes avec qui je vais travailler ont déjà établi, en fait, finalement, que je n'ai pas la même valeur qu'il et elle. Enfin, que sont déjà en train de se dire, ah oui, non, mais si Cécile est engagée, c'est juste parce que c'est une femme et ça n'a pas du tout la même valeur que si on engage un homme. J'étais, mais tellement furieuse. Oui. C'est sûr de ce genre d'expérience, en fait, et on les accumule tout le temps. Et au bout d'un moment, c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait plus prendre.
Ouais. Ouais, justement, alors est-ce que dans ton activisme auprès de d'autres femmes, tu arrives à donner des clés, en fait, pour réagir par rapport à ce genre de situation ? Est-ce qu'il faut réagir à chaque fois ?
Oui, c'est souvent la deuxième partie, en fait, dans mes conférences, c'est d'arriver... C'est voir ce qu'on fait quand on est victime de sexisme, mais aussi quand on voit une situation sexiste. Ça s'applique pas qu'au sexisme, en fait. Hein, ça s'applique aussi au racisme, aux situations d'homophobie, à toutes les discriminations qu'on peut observer. Et puis enfin, comment ne pas commettre ce genre de discrimination, parce que on vient d'une société qui est sexiste, qui est raciste, qui est homophobe. C'est pas des choses qu'on a inventées en fait. On a juste été éduqués dans une société qui est comme ça. Et donc c'est à nous aussi de nous éduquer au-dessus de ces problématiques. Et alors oui, je donne des conseils évidemment. Comment réagir individuellement? Comment réagir quand on est aussi face à une situation pareille et qu'on est face à un groupe? Parce que c'est assez différent, en fait, comme dynamique, de se retrouver la cible d'un groupe ou alors d'être juste avec une personne qui fait une réflexion face à nous. C'est pas du tout la même façon de réagir. Mais je pense, finalement, la conclusion, c'est qu'il n'y a jamais une bonne façon de réagir. Je donne souvent cet exemple que j'ai vécu dans un cours d'ingénieur, je ne sais plus ce que c'était. C'était avec du coup tout l'amphithéâtre, quasi que des hommes et quelques femmes. Pas des vraies femmes, des lesbiennes, hein, puisque apparemment, on n'est pas des vraies femmes quand on est en ingénieur. Et en fait, ce professeur arrive, c'était le premier cours qu'on avait avec. Là, on voit un peu le sourire et tout, on sait qu'il va faire une petite blague et qu'il l'a prévu depuis le départ. Et il regarde l'audience. Et moi, je suis assise au premier rang, je suis une bonne étudiante. Et il dit, vous savez, je suis quand même très contente que les universités acceptent maintenant les femmes dans ces études, parce que, de mon point de vue, ça rend l'auditoire beaucoup plus attrayant. Je rigole, mais wow. J'ai pas du tout rigolé. J'étais au premier rang, je m'assieds. Et wow. En plus, en finissant sa phrase, il me regarde et il me fait un clin d'œil. Et je savais pas où mettre. Et en fait, c'est le genre de situation dans lequel on est confronté. Et j'étais probablement en train de chercher un cahier pour prendre mes notes, puisqu'on venait de commencer le cours. Et puis, on se retrouve exposé, en fait, devant tout l'auditorium. Ouais. Et il faut prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y en a une fraction de seconde pour se décider. Et sur le coup, j'ai vu juste deux options. La première, c'était soit de laisser couler, et donc faire un petit sourire, ou même, enfin, voilà, essayer de pas provoquer le professeur, parce qu'en fait, si jamais je fais un petit sourire, le professeur va finalement être content, puisque la jolie jeune fille qui est au premier rang trouve sa blague drôle et qu'il est toujours marrant. Et même si jamais il a 50 balais, quand même les petites minettes de 18 ans, elles sont quand même impressionnées par lui. Et donc, son ego est boosté, il va bien m'aimer. Mais par contre, le reste de l'auditoire, j'en ai parlé tout à l'heure, va juste considérer que la seule raison pour laquelle je réussis dans ce domaine, c'est parce que le professeur me trouve attrayante, en fait. Attirante, c'est l'anglais. et du coup, l'autre option, ce serait au contraire de réagir de façon un peu offensée, peut-être même juste froncer les sourcils ou juste montrer que c'est pas un commentaire qui me fait plaisir. Dans ce cas-là, je pense que le reste de l'auditoire n'aura probablement pas grand intérêt dans ma réaction. Peut-être il y aura deux garçons au bout qui sont là, encore une féminazie ou j'en sais rien. Peut-être une fille au premier rang qui va me regarder aussi en se disant « Ah, on se sait, moi non plus, j'ai pas aimé ce commentaire » et qui va comprendre qu'elle a une alliée. Mais le professeur, alors, lui, va se retrouver offensé finalement que sa blague offensante, je n'ai pas souri, j'ai pas décidé de lui donner cette satisfaction finalement de répondre à ses avances qui étaient complètement non sollicitées. Et donc, c'est toujours des situations qui sont très délicates parce qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, il n'y a pas une réponse qui est appropriée. Et oui, je pense que, évidemment, maintenant, j'aurais tendance à... Là, j'aurais vu une troisième situation, en fait. Maintenant, je rameuterais toutes les filles de mon auditoire. Après, j'irais leur parler en disant « Mais c'est complètement inacceptable, ce genre de commentaire. » Et si je trouvais pas assez de soutien là-bas, j'irais voir les autres filles dans d'autres classes d'ingénieurs, j'irais voir celles en sciences, j'irais voir celles partout en fait, et je rejoindrais des groupes, pas pour agir contre ce professeur en particulier, parce que je sais même plus son nom, je me fous de sa classe, mais pour en fait dénoncer ce genre d'attitude dans cette institution, dans cette université, et rajouter une voix. Et alors je prendrais plutôt une sorte, je crois que j'agirais alors à un niveau un peu plus global finalement dans l'université pour me battre contre le sexisme de façon générale, puisque c'est pas le professeur qui est important dans ce cas-ci, on s'en fout un peu. Mais...
Donc toi, ton arme en tout cas, c'est la sororité en fait, c'est le fait, ou en tout cas l'union fait la force, dans ces cas-là, et comme tu dis, de pouvoir libérer la parole et de d'être ensemble et de trouver du soutien au moins pour en parler, si ce n'est pour agir. Il y a quand même cette partie éducative, puisqu'on s'est rencontrés via Pépite Sexiste, dont tu fais partie. Ou Pépite Sexiste, l'idée, c'est quand même de dénoncer, bien sûr, des comportements. Enfin, je te laisse en parler, mais je crois que cette partie-là d'éducation, de prise de conscience partagée, elle est quand même hyper importante.
Oui, tout à fait. Je pense, c'est ça que j'essaie de faire avec les conférences aussi, hein, c'est d'éduquer finalement sur les sujets du sexisme, les hommes et les femmes. Donc Pépites Sexistes, c'est une association en France qui a commencé en France il y a maintenant 5 ans et demi ou 6 ans. On s'est retrouvés pour les 5 ans en avril, donc ça fait 5 ans et demi. C'est une association qui dénonce en fait l'utilisation du sexisme dans les publicités. Donc, par exemple, vous voulez vendre un radiateur et vous mettez un fessier de jeune femme à côté du radiateur pour le vendre. C'est très sexiste. Et ça, on dénonce. Moi, j'ai co-créé la branche belge qui s'appelle Sexisme Flop. Et donc, en fait, ce sont des utilisateurs et utilisatrices qui nous envoient des messages avec les publicités ou bien, mais parfois, c'est juste des portes de toilettes ou des choses comme ça, mais des choses vraiment très sexistes qui sont dans le domaine public et qui nous demandent finalement de relayer ça et d'interpeller les marques. Et donc, Pépites Sexistes, c'est énormément de followers. Maintenant, ça fait quand même beaucoup d'impact. Je sais pas si tu as vu, il y a 2 ou 3 jours maintenant, une interpellation de la boutique de l'Élysée qui avait, oh, pour madame, bijoux et accessoires, et pour monsieur, montre, gastronomie et pétanque. Et dans l'heure, la boutique de l'Élysée, évidemment, a répondu en disant, ah, merci du signalement, on va changer. Ils ont supprimé les photos, ils ont supprimé toute l'annonce pour avoir
D'accord,
juste des
ouais,
catégories
c'est
avec
bien.
montres, accessoires et bijoux. Et il n'y a plus pour mesdames, pour monsieur. Donc oui, on a un impact
Ouais, je comprends.
et c'est vrai que c'est chouette. On a aussi reçu de la Fondation des femmes. Maintenant, on va avoir 10 semaines de campagne, en fait, dans lesquelles on veut faire exactement ça, de l'éducation sur le sexisme qu'on appelle le sexisme ordinaire. Donc, ce qu'on voit dans la vie de tous les jours et ce qu'on a assimilé depuis toute petite et tout petit, en fait, comme étant quelque
Ouais,
chose
exactement.
de normal, mais en fait, qui n'est pas du tout.
Ouais, parce que tu vois ton professeur, en l'occurrence, si simplement on lui pointait du doigt ce comportement, il en prendrait sans doute conscience et parce que on est, comme tu dis, on a été élevé comme ça aussi, et que c'est pas évident de pas commettre d'impair. En tout cas, cette partie éducative, elle fait partie de ton action aussi. Et je trouve que c'est hyper important. Et le collectif comme Pépites Sexistes montre que ça marche hyper bien de se mettre ensemble et de compter justement sur des relais dans le public.
Si je peux
Et
le faire
plus il
aussi
y aura de personnes sensibilisées.
un peu de pub pour un autre collectif, mais que je suis beaucoup, qui est en France et qui est incroyable, je trouve, c'est le collectif Nous Toutes. Si vous connaissez pas, renseignez-vous et suivez parce qu'il y a des formations très régulièrement sur tout justement sur le sexisme, sur les microagressions. C'est des choses qui sont gratuites, qui sont disponibles et c'est vraiment très bien fait. Donc, je recommande quand même aussi de suivre ce collectif-là en France. Je trouve que vous avez beaucoup de chance de l'avoir. C'est assez intéressant.
Tu vois, ça s'appelle Nous Toutes. Alors justement, est-ce que le risque, c'est pas de laisser un peu les hommes sur le côté, alors qu'en fait, on a besoin de tout le monde. Tu parlais de dénoncer parfois certains comportements. Il aurait fallu que dans l'amphi où tu étais ou dans les transports, quand ça arrive, là, il y a une campagne en France justement là-dessus, que il dénonce ce comportement ou qui, voilà, lui. Il lui envoie la joke en retour pour justement lui montrer qu'il s'était déplacé.
Oui, alors en effet, dans les groupes que je gère au Centre spatial allemand, c'est des groupes uniquement pour les femmes et les minorités de genre parce qu'on veut avoir ces espaces pour les discussions, des espaces dans
Ouais.
lesquels on se sent à l'aise en fait de raconter ce qui nous est arrivé
Absolument.
et on va pas avoir quelqu'un, souvent un homme, qui va dire oui, mais enfin moi j'ai jamais vécu ça, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous racontez? Donc ça on a exclu. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'on puisse aussi compter sur des supports en fait. Et des alliés en fait en dehors de ça, mais c'est aussi une formation en fait. Le fait d'être allié, ça s'invente pas du jour au lendemain, je crois. Ça, j'en parle dans mes formations. J'explique d'abord donc quand on est victime, comment est-ce qu'on peut réagir en situation individuelle et en groupe, et puis quand on veut être allié en fait, comment est-ce qu'on peut réagir. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut réagir. On peut pas se permettre de ne pas réagir, sinon c'est ne pas être un allié en fait. Alors sur le moment, ça peut parfois être difficile de réagir. Mais on peut toujours aller trouver les victimes après pour s'enquérir de leur état, pour dire qu'on est là et qu'on a vu que quelque chose n'était pas normal ou qu'on a trouvé quelque chose de pas normal et qu'on est disponible à les aider si jamais ça se reproduisait et discuter d'une stratégie ensemble, par exemple. Ça peut se faire a posteriori. Et maintenant, sur le moment, le problème aussi, c'est il peut y avoir des gens qui nous mettent dans des situations très compliquées. Si on s'imagine dans une salle de réunion, par exemple, où on est la seule femme, ce qui arrive très souvent dans mon domaine, on est confronté très régulièrement au fait d'être interrompu, au fait de ne pas avoir des idées qui nous sont attribuées. Donc, si jamais, par exemple, je ne parle jamais au début d'une réunion, je parle toujours après 15-20 minutes parce que je sais que sinon mes idées, c'est mes collègues qui vont à un moment les reprendre en disant « Ah, mais si on faisait ça, mais je l'ai dit au début, mais il semble que tout le monde ait oublié en fait que j'ai dit ça au début, donc je garde maintenant tout ça pour la fin, c'est un peu triste. Mais si j'avais des collègues, en fait, justement, qui à ce moment-là, pouvait intervenir et dire « Ah oui, mais attends, je pense que cette idée, Cécile l'a mentionnée au début de la réunion. » Ou alors, si jamais quelqu'un m'interrompt, dire « Je suis pas tout à fait certain que Cécile avait fini. Cécile, est-ce que tu avais fini ?» Alors, le problème, c'est toujours de pas imposer ça sur la personne. Il y a des femmes qui vont sentir très mal à l'aise d'avoir ce redoublement d'attention, j'imagine. Il y en a d'autres comme moi qui vont trouver ça très bienvenu, probablement, d'avoir quelqu'un qui s'assure que j'avais fini de parler. Il n'y a pas besoin de dire « Cécile n'avait pas fini de parler », parce qu'on c'est jamais trop certain. Peut-être que moi, je suis mal à l'aise. Je vais dire « Non, en fait, j'ai plus rien à dire ». Mais aussi d'avoir quelqu'un qui dit « On va juste vérifier 2 minutes », parce qu'au final, elle était en train de parler quand toi, t'as commencé. Et c'est pas toujours évident de savoir comment intervenir en tant qu'allié pour ne pas envenimer la situation ou mettre les femmes encore plus mal à l'aise que ce qu'elles sont, parce qu'elles deviennent le centre de l'attention parfois. Moi, ce que je conseille toujours, c'est de ramener à sa propre perception. Entendait une blague sexiste, une blague raciste, au milieu d'une réunion, par exemple, c'était pas de se tourner vers la seule personne de couleur dans la salle en disant « Ah, oh, moi, je pense qu'elle a très mal pris », on n'en sait rien. Mais au contraire, c'est de s'élever pour soi-même, se dire « Écoutez, moi, ce commentaire ne me va pas du tout. Je trouve ça très raciste, je considère que ça devrait pas être là. » Et ne pas inclure là où les personnes... En fait, parler pour soi-même et ne pas les mettre encore en plus dans une situation où elles doivent, oui ou non, se justifier de si elles ont repéré le sexisme ou le racisme qui était là. C'est compliqué d'être un ou une alliée, donc il faut bien réfléchir à comment on fait ça. Et je pense une bonne façon d'apprendre, c'est en se renseignant en fait auprès des personnes discriminées, quand on a vu des discriminations, et leur demander comment on peut être un soutien pour ces personnes-là. Et ça va être, c'est pas une recette magique en fait. Il n'y a pas une solution qui s'applique à tout le monde. Il faut pouvoir s'adapter en fait en fonction des personnes avec qui on est. Et voilà, c'est un travail, hein. c'est pas quelque chose où on dit simplement « Ah oui, non, moi je suis contre le racisme », ça ne change rien d'être contre le racisme, il faut pouvoir agir en fait quand on le voit, et il faut pouvoir être là pour soutenir les personnes qui sont discriminées.
C'est hyper intéressant et je te remercie beaucoup de partager tout ça, parce que comme tu dis, c'est pas toujours évident et d'être voilà un allié ou de réagir quand on est soi-même dans ce type de situation. Toi, au regard de ce que tu vis aujourd'hui dans le secteur dans lequel tu es, est-ce que tu recommandes à d'autres jeunes femmes de rejoindre ce secteur? Est-ce que tu trouves que c'est trop difficile ou que le jeu vaut la chandelle? Enfin, ça serait quoi ton conseil par rapport à des jeunes femmes qui sont en situation de choisir leur orientation professionnelle?
C'est vrai que pour le moment, je ne suis pas une très bonne avocate finalement. Quand je parle du sexisme en permanence et de ce qu'on vit, ça ne donne pas trop envie de rejoindre mon domaine forcément. Par contre, évidemment, plus il y aura de femmes dans mon domaine, plus ces situations, en fait, plus on est en nombre, on a la force, en fait, finalement, d'agir contre ces situations, et je pense que plus elles auront tendance à diminuer, enfin, j'espère. J'ai juste beaucoup d'espoir, finalement, que tout ce dont on parle est peut-être plus ouvertement maintenant, depuis le mouvement MeToo, il y a eu vraiment beaucoup de domaines dans lesquels on a commencé à parler du sexisme ambiant. J'espère, en fait, que les jeunes femmes qui décideraient de commencer ces études viendrait avec un peu plus de force déjà et une meilleure idée de ce qu'est la sororité et comment l'utiliser que moi quand j'ai commencé ces études. J'étais à l'époque très fière d'être inclue dans les groupes avec les garçons et oui, c'était je trouvais ça compliqué d'être avec des filles. Enfin, c'était vraiment j'étais vraiment imprégnée de ce sexisme jusqu'à dans la façon dont j'avais des relations en fait avec les gens, et je trouvais que c'était beaucoup plus valorisant d'être avec un groupe d'hommes et qui me perçoivent un peu en fait dans leur groupe, forcément, puisque la société, c'est ça qu'elle nous enseigne. Et j'espère que alors les jeunes filles qui rejoindront maintenant, en fait, auront beaucoup moins ces a priori et se rendront compte en fait que elles sont incroyables, elles ont cette capacité émotionnelle, elles ont cette connaissance sur le sexisme parce qu'elles l'ont vécu toute leur vie malheureusement, et que c'est des choses sur lesquelles elles peuvent bâtir.
Oui. Oui, cette connaissance finalement qu'elles ont de comportement sexiste et la possibilité de rejoindre aussi des groupes de soutien, ça, je pense que ça va beaucoup les aider. Justement, si on parle de conseils qu'on peut se donner, si toi tu pouvais revenir dans ton passé pour te donner un conseil, ça serait à quel moment et pour te dire quoi?
Ce serait en fait dès le moment où j'ai dû choisir mes études, probablement où j'ai commencé vraiment à avoir de plus en plus ce sexisme, c'est plutôt en fait d'écouter les sentiments, d'écouter mon corps. Enfin, je pense qu'à chaque fois que j'ai été victime de situations discriminatoires, mon corps, mon estomac se serre, je me suis pas sentie bien. Et mais c'est des choses que j'ai décidé d'ignorer très rapidement en me disant c'est moi qui suis trop sensible. C'est probablement rien. Peut-être que c'est moi qui en fais trop, ou alors il faut que je m'endurcisse parce que je veux pas être perçue comme une pleurnicheuse. Et en fait, ce que je donnerais comme conseil, ce que je me serais donné comme conseil, c'est d'écouter chaque moment où mon corps réagit, où je me sens mal à l'aise, et de les considérer comme des sentiments tout à fait valides en fait. Si jamais votre corps vous dit quelque chose, c'est que quelqu'un vous manque de respect, et c'est inacceptable. Sur base de ça, j'aurais espéré pouvoir mettre plutôt des limites en fait sur ce que j'acceptais, ce que j'acceptais pas, en me faisant entièrement confiance que les sentiments que j'éprouve sont des sentiments tout à fait réels et valides, et que ils sont peut-être différents des personnes que je vois autour, mais c'est pas un problème en fait, parce que pour moi j'ai besoin de ces limites, ou c'est des choses que j'accepte ou que j'accepte pas, et ça vaut autant pour la vie professionnelle que pour la vie privée.
Et est-ce que tu penses que est-ce que tu regrettes finalement de ne pas avoir fait ces études d'ingénieur que tu as imaginées ou qu'on t'a dit c'est plutôt réservé pour les garçons? Tu as des regrets par rapport à ça, ou finalement tu as trouvé ta voie et c'est pas si important?
En fait, je trouve ça pas si mal finalement de montrer qu'il y a d'autres façons d'arriver à rentrer dans mon domaine. Je sais que ça aurait été encore plus pénible, je crois, parce que quand j'ai vu cette expérience avec le professeur que j'ai rencontré plus tôt, enfin, c'est pas des choses que j'aurais eu envie d'avoir en permanence, en fait. Et je pense que ça aurait été encore pire probablement que dans la faculté des sciences où j'ai étudié. Et je suis pas sûre que j'aurais en fait continué dans ces études-là si jamais j'avais dû vivre ça en permanence. J'ai eu un parcours où j'ai failli arrêter quand même. Travailler dans le spatial, parce que ces 4 années de recherche que j'ai fait à l'université, c'était en vue de faire un doctorat. Et j'ai arrêté, en fait, après 4 ans, j'ai complètement abandonné le doctorat, ce qui est quelque chose qui se fait pas souvent, parce que le doctorat, dans la société, c'est perçu comme une sorte de challenge individuel. On donne beaucoup de valeur aux gens qui font un doctorat, et je pense dans n'importe quel métier, si j'avais commencé un métier et qu'au bout de 2 ans j'avais dit c'est infernal, mon patron me rend dingue, je vis une situation de harcèlement moral, je pense que tout le monde m'aurait dit Cécile, change. Mais comme il s'agissait d'un doctorat, tout le monde m'a dit allez, encore 2 ans, tu t'accroches. Et ça a été terrible. J'ai eu une grosse dépression, et il m'a fallu pas mal de temps, en fait, pour pouvoir revenir sur mes pattes. J'ai l'impression que cette interview que j'ai eue justement sans se passer l'allemand, c'était un peu la dernière énergie que je mettais dans ce secteur. C'est changé probablement. Et donc, oui, je sais pas, les parcours peuvent être un peu différents. Maintenant, même si j'ai pas de doctorat, je suis quand même session chair dans des conférences. J'ai des rôles, finalement, qui sont attribués à des personnes qui sont avec des doctorats. Et j'aime bien pouvoir montrer que même si on fait pas un parcours académique vraiment à la lettre, en faisant exactement les bonnes études, en faisant les doctorats, on parvient quand même à faire de la recherche finalement. Et voilà, il n'y a pas une seule façon de faire de la recherche. Quoi.
Ça sera donc le mot, pas de la fin, parce que je voudrais te demander tes références, mais en tout cas sur sur ce parcours et merci beaucoup du fond du cœur de partager tout ça aussi ouvertement. Je pense que c'est utile pour nos auditrices et auditeurs pour prendre conscience aussi de ce que ça signifie parfois pour les femmes de travailler dans ces domaines où elles sont très peu nombreuses. Tu peux me dire si tu as une figure, quelqu'un qui t'inspire particulièrement soit dans ton domaine, soit dans la tech en général, ou plus largement.
Cette année, j'ai trouvé, il y en a quand même pas mal de prix Nobel, en fait, décernés à des femmes. J'ai trouvé ça très inspirant. Et une femme qui m'inspire beaucoup, qui n'est pas vraiment dans mon domaine, mais elle s'appelle Ursula Keller. Elle travaille à Zurich, elle est professeure. Elle est excellente dans son domaine, elle travaille dans le temps et les horloges. C'est notamment un domaine qui est lié aux satellites. Et elle fait à côté de la recherche aussi sur le sexisme dans le milieu académique. Et oui, je suis très impressionnée par ces femmes qui sont extrêmement talentueuses au niveau scientifique et technique et qui en même temps arrivent aussi à se battre et prouvent en fait qu'on peut faire les deux, qu'on peut être très bonne techniquement, mais aussi finalement être une militante et vouloir changer les choses. C'est pas incompatible et ça m'inspire beaucoup parce que c'est pas toujours facile de se dire qu'on va pouvoir combiner ça dans sa vie.
Alors, on mettra bien sûr les références. Je sais pas, il y a une conférence en particulier que tu recommandes ou peut-être on partagera ça ensemble après pour mettre le bon lien. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement inspiré et aidé?
Tu l'as mentionné dans le dernier épisode, je pense que c'est le premier livre qui m'avait beaucoup inspirée, c'était Caroline Criado Pérez, Les femmes invisibles. Je lis beaucoup, en anglais aussi, donc j'ai deux autres références qui m'ont beaucoup inspirée, si tu veux, je peux te les donner. En anglais, donc, c'est Strong Female Lead, Lessons from Women in Power, et ça, c'est Arwa Madawi. En fait, elle est rédactrice aussi pour Le Guardian, c'est vraiment génial ce qu'elle écrit, elle est très très inspirante. Et c'est une approche en fait dans laquelle elle explique, elle montre en fait à quel point l'éducation des femmes leur permet de devenir d'excellentes leaders. Et en fait, la thèse de son livre, c'est les hommes devraient prendre exemple sur les femmes dans beaucoup de domaines. Et ce qu'on demande en général aux femmes, c'est tout le temps de changer comment elles sont pour s'intégrer plus et devenir comme des hommes, parce que tous ces milieux ont été définis par des hommes pour des hommes, et donc on s'attend à ce que les femmes, finalement, juste se changent pour être plus comme des hommes. Et elle défend la thèse opposée, et j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Et puis, un qui me donne un peu la niaque aussi, j'aime bien, c'est The Seven Necessary Sins for Women and Girls. Je ne sais pas si tu connais, c'est Mona El-Tahawi. Et ça, c'est plutôt quand on a besoin de se dire qu'on va faire quelque chose, c'est très chouette de la lire parce que ça donne de l'énergie.
Top. Eh ben écoute, on mettra toutes ces références et ça va nous faire des bonnes lectures au coin du feu pour la période de Noël. Est-ce que tu as une émission, quel que soit le format, que tu veux recommander?
Les podcasts.
Je sais pas quel est ton média préféré.
Ouais, j'écoute beaucoup de podcasts. Un que j'écoute, que je trouve qui est extrêmement bien fait, que j'écoute tout le temps pour le moment, c'est Kif Taras, c'est un podcast français. Rokaya Diallo et Grace Lee. Elles sont remarquables et pour une personne blanche comme moi, c'est vraiment très intéressant d'écouter toutes les questions raciales dont elles discutent. Elles ont des invités qui sont vraiment aussi très intéressants et intéressantes. Et donc ça, je recommande en fait de s'éduquer en fait à des questions, à des discriminations auxquelles on fait pas face nous-mêmes, parce qu'on parlait justement des questions de comment être un ou une bonne alliée. Et je pense que ça passe par une éducation. D'abord, essayer de comprendre quels sont les problèmes auxquels d'autres personnes sont confrontées. Pour pouvoir en fait être plus attentive à ces problèmes.
Absolument. Et d'ailleurs, si je me permets, en le faisant un petit coucou à sa créatrice, de te mentionner le podcast Joyeux Bazar, qui est fait par Alexia Sena, qui est sur le multiculturalisme. Alexia, elle a vécu entre le Cameroun et la France, et elle reçoit des personnes qui ont eu comme ça à vivre entre deux cultures. Et elle vient d'être récompensée, son podcast vient d'être récompensé. Je t'invite à le découvrir. Il est vraiment très, très chouette. Les entretiens sont hyper intéressants. Ça s'appelle Joyeux Bazar. Je mettrai aussi la référence. Eh bien, écoute, il nous reste à conclure. Voilà, merci mille fois, Cécile, pour ce partage. Je suis vraiment ravie d'avoir pu enfin t'inviter sur Tech Lipstick pour parler de ton engagement et de tout ce que tu réalises dans ton domaine. Bravo, et bravo aussi de jouer ce rôle de modèle pour d'autres femmes et notamment les jeunes. Tu viens d'entendre Cécile Després, que tu peux retrouver sur LinkedIn, où elle parle de son actualité et des réseaux dont elle fait partie. C'est le dernier épisode de l'année, une année riche, puisque ce sont 20 femmes qui sont venues à mon micro, dont 12 entrepreneuses. Je ne peux que t'inciter à les écouter en cette période hivernale. Tech Lipstick va s'arrêter quelques semaines pour redémarrer en janvier avec une série sur les femmes dans l'intelligence artificielle que j'ai vraiment hâte de te faire découvrir. N'hésite pas à partager ce podcast, continue d'explorer, c'est d'autant plus important dans la période que nous vivons. Et passe de bonnes fêtes, je te dis à l'année prochaine.